Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Sylvain Langlard. Bonjour.
Bonjour.
Sylvain Langlard, vous faites partie de l'association Terre-Terre qui organise cette année de nouveau, ce 7 août à 10, place de la République, le marché des potiers, 22e édition. Donc déjà un beau parcours, on reparlera rapidement de cette évolution et où seront proposés donc en exposition 45 créateurs en céramique, peut-être aussi sur d'autres aspects. Et il y aura quelques ateliers ou de démonstrations pour cette journée, avec peut-être des animations aussi culturelles autour.
Oui, complètement. C'est, ce marché des potiers se veut un lieu d'exposition pour que les créateurs de la vallée et de France, hein, puisqu'on a des potiers et des potières qui vont venir d'un petit peu partout pour ce marché qui bénéficie d'une grande réputation. C'est l'un des plus grands marchés d'Auvergne-Rhône-Alpes de céramique. Et donc ce moment se veut effectivement un lieu d'exposition de céramique, mais également un moment familial au travers des animations qui sont proposées. Tout est gratuit sur ce marché. On a en animation, on aura Éric Desplanches, qui est aujourd'hui un potier très reconnu, qui va venir faire des démonstrations de tournage, de grosses pièces. C'est très impressionnant à voir. Et c'est quelqu'un qui a un très grand bagout et qui partage avec beaucoup de joie son métier. On aura également deux potières céramistes du territoire qu'on commence à connaître très bien, qui sont Aurélie Ponson et Natacha Billon, qui viennent chaque année proposer une sculpture collective en terre. Elle ramène plusieurs centaines de kilos de terre et à la base, on se dirait que c'est dédié. En fait, finalement, on pense aux enfants et en fait, on se rend compte qu'au cours de la journée, eh bien, les parents viennent se greffer sur la sculpture et petits et grands construisent une sculpture immense qui, en fin de journée, est détruite avec grand plaisir, tous ensemble également. C'est toujours très créatif et très beau que de voir tout le monde relier la terre et les mains. Et puis, on a également toujours une petite animation musicale qui est proposée. Avec cette année, on aura Matisse, qui est un des guitaristes bien connus d'Audi, qu'on a l'occasion de voir régulièrement, qui va venir animer le marché de façon ponctuelle. À différents moments, il viendra jouer un petit peu dans les allées.
L'association Terre-Terre, qui se charge de cette organisation, prend la suite de l'apothéose, l'association antérieure. Cette mutation, ce changement de direction, c'est voulu par quelle nécessité ?
Déjà, le marché des potiers, ça fait 22 années que ça existe. Organiser un marché de potiers, c'est une histoire d'énergie tout de même. Il faut réussir à réunir un groupe de personnes motivées pour porter un événement tel que celui-ci. C'est quand même un événement qui est assez conséquent à monter. 22e année, donc ça a commencé en fait en 2002 sous l'impulsion d'Hélène Carlo et de Marianne Saba qui, elle, était de l'association d'Argile. L'association d'Argile, c'est une association d'Auvergne-Rhône-Alpes qui œuvre pour la céramique, la défense des céramistes. C'est une association qui va permettre de fédérer les différents corps de métier et les potiers-potières et qui ont œuvré donc il y a une vingtaine d'années à la création des marchés de potiers. Ces marchés de potiers, c'est pour les potiers et potières, c'est très important puisqu'en fait c'est un peu comme une guilde qui se met en place et qui permet à ces potiers et potières d'exposer régulièrement. C'est des moments cruciaux dans les saisons pour ces artisans et artisanes. Donc tout d'abord, l'impulsion de d'Argile, qui crée il y a 22 ans ce marché de potiers. Puis en 2012, une dizaine d'années après, François Lagrange et Cathy de Souza, avec l'aide également de Nathalie Larocque, créent l'association qui s'appelle l'Apothéose et reprennent l'organisation de ce marché. Il faut quand même souligner quand même que François Lagrange, qui tient la boutique d'artisans également, l'entrepôt, dans la rue Buffardel, n'est pas potier. Et il a mis toute cette énergie à transmettre et à vouloir mettre en avant ce métier. Donc on le remercie, puisque en fait, ça fait partie des gens qui ont permis à ce marché de perdurer, avec sa compagne donc, Catherine de Souza. Ce marché, donc, du coup, a été géré sous l'impulsion de l'apothéose. Et puis ensuite, il y a 3 années de cela, en fait, bon, ils ont eu envie un petit peu de donner la main et de léguer cette organisation à des nouveaux acteurs du territoire. Et donc, cette potier et potière, cette céramiste, se sont réunis sous le nom de l'association Terre-Terre. Et depuis 3 années, gère ce marché de potier à Die, qui est donc a lieu traditionnellement le premier jeudi d'août ou parfois le deuxième jeudi d'août. Donc, cette fois-ci, c'est le jeudi 7 août, place de la République. Au tout départ, ça a commencé sur le viaduc. Et puis, c'était même au tout début, c'était même sur 2 journées avec la commune libre de Sainte-Martielle qui assurait aussi la surveillance du marché la nuit pour que les stands puissent rester en sécurité. Puis, au fur et à mesure, ça s'est décalé et on est arrivé aujourd'hui sur cette place de la République qui a le mérite d'être un lieu ombragé. Donc, avec les chaleurs qu'on connaît estivales, on s'y promène, on a la cathédrale en fond, c'est très joli. On a ces platanes qui viennent apporter un peu de fraîcheur et aux exposants et aux visiteurs, avec une petite fontaine pour se rafraîchir également. Et c'est un lieu qui est entouré de restaurants et de bars, donc ça en fait un endroit très convivial.
Cette association, donc, Terre-Terre, dont sont membres Yudena, Yala Pérez, Hélène Buzy, Thiago Chevalet, Catherine de Souza, comme on l'a dit, Sina Grisgiger, Pierre Crémer et vous-même, Sylvain Langlard, qui exposez tous hein, pendant ce marché des potiers. Je crois savoir que, traditionnellement, vous invitez au maximum 2 années consécutives un artiste ou un créateur pour exposer. Est-ce que c'est une discipline auquel vous tenez toujours ?
Oui, absolument. En fait, quand on candidate au marché des potiers de Die, donc il y a un comité de sélection qui est mis en place, hein, donc qui est représenté par les 7 personnes qui ont fondé cette association Terre-Terre. On va se réunir pendant 1 journée, parfois 2 journées, et on va regarder toutes les candidatures. Ces candidatures, cette année, on a eu un peu plus de 130 pour une 20aine de places disponibles. Donc il y a une sélection qui est relativement drastique. Cette sélection, elle se fait de différentes façons. C'est-à-dire que nous, on tient à ce que les différents métiers de la céramique soient représentés. C'est-à-dire qu'il y ait aussi bien de la poterie utilitaire, du bijou, de la sculpture, mais également différentes techniques. Il peut y avoir du modelage, du tour, de la plaque, il peut y avoir aussi du coulage. On va vraiment s'attacher à ça. Et puis, il y aura aussi les différentes terres qui sont représentées. On aura et la porcelaine, la faïence, la terre vernissée, le grès. Et on met un petit carcan là-dessus. On se dit, bah, apparemment, on veut X personnes en grès, X personnes en porcelaine, etc. L'idée étant que l'univers de la céramique soit représenté dans ses grandes largesses. Et puis, on va y faire attention également dans la disposition sur le marché. C'est-à-dire qu'on va avoir 45 exposants et exposantes. On va s'arranger, par exemple, pour que toutes les personnes qui fassent de la porcelaine ne soient pas ensemble, mais qu'on puisse alterner un petit peu les techniques pour que le visiteur puisse découvrir une variété et qu'on ait une dynamique sur ce marché. Alors effectivement, au niveau de la sélection, en fait, on a nous choisi d'inviter les potiers et les potières qui sont sélectionnés pour 2 années consécutives. Ces marchés, je le disais tout à l'heure, ce sont des moments extrêmement importants pour les artisans et artisanes, hein, puisque c'est des moments... alors, on est tous créateurs et créatrices, mais on essaye tous aussi d'en vivre. Et pour en vivre, ces marchés sont cruciaux. Donc... inviter les potiers et les potières pour 2 années consécutives, c'est leur enlever une grosse épine du pied, c'est-à-dire c'est leur assurer pendant 2 années un marché qui est le marché de Die fonctionne très très bien. On va rappeler que c'est un peu plus de 5000 visiteurs à la journée qui vont venir parcourir les allées. On est sur l'un des marchés, si on devait... les marchés, souvent, on fait une moyenne de vente par potier et potière. On est l'un des marchés d'Auvergne-Rhône-Alpes qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, les potiers et les potières se bousculent pour venir ici, pour venir exposer à Die. Donc, vous avez vraiment une sélection qui est de très grande qualité.
Vous abordez justement cet aspect nourricier hein, de cette activité, de pouvoir en vivre. Le bilan économique, est-ce qu'il y a en quelque sorte une synthèse de ces artisans, des artisans, des céramistes sur l'économie ? Est-ce que c'est plutôt au beau fixe ou alors il y a des difficultés peut-être avec l'augmentation des prix de matière?
Alors là, c'est pas très évident d'y répondre. Ça va appartenir un petit peu à chaque potier et potière, et je pense qu'il y a des inégalités là-dessus. Certains vont se tourner également vers la transmission à travers des cours qui va leur permettre également de transmettre et d'aller chercher aussi un peu des financements de cette façon. Maintenant, là, en tout cas, nous, dans la sélection, en fait, quand même, il est demandé à ce que les potiers et les potières qui viennent exposer à DI, ce soit leur métier principal. Donc, en fait, c'est ces gens qui viennent. Alors, évidemment, chaque année, on va sélectionner ce qu'on appelle un poussin, c'est-à-dire une personne qui débute dans la céramique et qui justifie de moins de 3 années d'activité. Et il y a une place qui est réservée pour cette personne, en fait, pour que, au tout départ, on puisse avoir un petit coup de pouce et puisse lancer sur les marchés. Mais la plupart des exposants sont des gens qui, en tout cas, en vivent. Je pense que personne n'est riche, hein, mais en tout cas, le mélange, je dirais, amour du métier et financier dans l'ensemble va faire qu'en fait, ces personnes peuvent continuer, quoi. Si on devait donner à peu près une idée, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas bien compte, mais sur le marché de DI, il y avait 45 exposants l'année dernière. Il y a eu un peu plus de 50 000 euros de poterie vendue sur la journée. C'est assez conséquent. Donc voilà, il faut que ce marché de DI continue de fonctionner. Et s'il y a autant de ventes, c'est parce que ce qui est proposé est de grande qualité.
Et puis avec une amplitude de prix très variée.
Oui, absolument, puisqu'en fait, on va trouver des tasses qui peuvent commencer entre 8 et 10 euros jusqu'à en fait, des personnes qui vont proposer des grosses sculptures qui vont avoisiner les 2000, 3000 euros. C'est complètement possible. Je dirais que chacun va y trouver normalement pièce à son porte-monnaie, hein, puisque de la pièce utilitaire que chacun peut s'offrir ponctuellement à la sculpture décorative, en fait, y a de quoi se faire plaisir.
La poterie est une des plus anciennes activités humaines pour pouvoir s'alimenter ou stocker. C'est en quelque sorte une garantie aussi de pouvoir perdurer économiquement.
Oui, alors il y a à la fois cet objet qui est toujours utilitaire, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de manger dans quelque chose. Donc on mange dans un bol, on mange dans une assiette, on mange... on boit dans un verre.
Donc excepté après, Diogène.
Excepté Diogène. Après, on peut faire effectivement d'autres choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, à la fois, je dirais, l'ouverture au monde, c'est-à-dire au voyage, va nous emmener sur d'autres horizons. Donc en fait, on va avoir aujourd'hui, par exemple, l'arrivée des bols à boboon, des bols à ramen sur les stands. En fait, la culture asiatique qui vient se mêler un petit peu à la nôtre et qui vient renouveler un peu les usages. Et puis, on a quand même cette tradition du café ou du thé en France, hein, qui est là depuis très longtemps, qui fait qu'en fait, on a tous besoin de tasses. Et donc, on continue à boire dedans. Puis, il y a, je crois aussi, aujourd'hui, et qui plus est dans le Diwa, en fait, quand même, une envie de beau et une envie de tradition. Et ce métier perdure, ce métier se transmet, ce métier évolue. On a aujourd'hui la chance d'avoir, par exemple, à Dieulefit, la Maison de la Céramique, qui est quand même un lieu de création assez important et de transmission et qui permet d'aller toujours explorer. Et on est aujourd'hui entre le mélange céramique utilitaire, mais également exploration artistique, qui est un domaine qui évolue très fort. Et on voit chaque année des choses très surprenantes. Et on pense qu'on a tout vu, en fait, jamais, quoi. On a toujours une création, une créativité très importante.
La technologie numérique, notamment, est-ce que c'est aussi fait-elle son entrée dans le monde de la céramique ou de la poterie, notamment avec ces imprimantes en 3D? Est-ce que il y a des ouvertures? Est-ce que vous êtes au fait de ces innovations?
Bah, bien sûr, en fait, déjà la technologie a permis de démocratiser la poterie. Je dirais aujourd'hui, il y a des usines quoi, qui fabriquent de la poterie. Donc déjà, au niveau de la technologie, on est capable de produire en masse, à des prix complètement réduits, des objets simples et en série. Bon, nous, évidemment, en tant que potier, on n'est pas du tout là-dessus. Là-dessus, bah, évidemment, il y a du pour et du contre. Il y a des gens qui vont regarder l'imprimante 3D avec circonscription. Moi, personnellement, j'ai vu des lampes et des pieds de lampes en imprimante 3D avec en fait une texture que personnellement, autour ou en modelage, je serais bien en mal de reproduire. Et je trouve ça très intéressant, comme pas mal d'évolutions, il y a du pour et du contre. Mais je trouve en tout cas que le rendu est joli, graphiquement c'est joli. Maintenant, je pense qu'un tourneur ira bien plus vite à tourner une tasse qu'un imprimeur en 3D tournera une tasse. Donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire, quel rendu on veut donner. Et moi derrière, s'il y a une part artistique à la chose, et si l'utilisation d'une imprimante 3D se justifie par un rendu je dirais différent et inaccessible aux matières traditionnelles, aux techniques traditionnelles, eh bien, tant mieux, allons-y.
Alors, il y a cet aspect utilitaire hein, de la poterie, de céramique. Il y a également l'aspect parure avec ses bijoux. Et puis, il y a aussi des propositions de sculpture. Ce sont divers aspects de la céramique qui seront proposés. Est-ce que vous êtes en recherche aussi de cette, comment dire, d'un certain cosmopolitisme de fabrication s'inspirant de techniques au-delà de notre continent?
Oui, tout à fait. Je pense qu'une bonne partie des céramistes qui viennent sur ce marché sont auto-entrepreneurs ou font partie de la Chambre des métiers de l'artisanat et donc du coup ont la chance de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'heures de formation chaque année. Pour ma part, par exemple, j'ai le droit à 105 heures de formation chaque année, entièrement financée. Ça veut dire à peu près 3 semaines de stage possible par an. Et j'ai l'an passé consacré ces stages à aller faire de l'utilitaire au colombin, donc c'est les techniques qui sont plutôt à la base asiatique ou africaine. J'ai travaillé aussi à la batte et aux champignons, donc qui sont des techniques en fait que je n'utiliserai pas aujourd'hui en atelier puisqu'elles sont hyper contraignantes et très longues afin de se les approprier complètement. Mais oui, je crois qu'on est tous un petit peu en recherche de créativité puis, et de variété. C'est un métier artisanal, donc on fait aussi de la série. On fait aussi des choses, on va dire qu'on doit être aussi productif, mais on est aussi en recherche de créativité tout le temps. Et donc, du coup, effectivement, la plaque, le colombin, c'est des choses que... Par exemple, si vous allez voir la production de Yudena ou de Hélène, voilà, elles vont aussi bien proposer des choses autour que des grandes jarres au colombin. Elles vont allier les deux pour aussi ne pas s'ennuyer, tout à fait.
Il y a donc diverses techniques hein, qui seront proposées. On peut en citer le grès, le sigillé. On peut peut-être rappeler ce qu'est cette technique.
Oui, la terre sigillée, c'est une technique qui est ancestrale. On va prendre une terre qui va être de la faïence à la base qu'on va cuire et ensuite on va ajouter par-dessus. En fait, on ne va pas l'émailler. On va ajouter un petit peu ce qu'on pourrait appeler le nectar de la terre. C'est-à-dire qu'on va prendre de la terre qu'on va faire décanter dans de l'eau pendant plusieurs semaines, vont se déposer au fond les particules les plus lourdes et resteront en suspension les particules les plus légères. On va siphonner ces particules légères et on va laisser décanter l'eau pour obtenir en fait une espèce de très fine boue, de pellicule de terre, extrêmement, vraiment le nectar de la terre qu'on va aller ensuite, soit au pistolet, soit par trempage, appliquer sur la pièce. Cette pièce sera ensuite lissée pour fermer, on va dire, tous les pores de la peau, hein, parce que la faïence, à la base, est une terre qui est poreuse. Hein. Si vous prenez une pièce en faïence sans émaillage, que vous mettez de l'eau dedans, c'est comme un pot de jardinage, en fait. Hein, l'eau passera à travers. Mais en lissant avec des outils, que ce soit une cuillère, une pierre, les doigts, cette terre, en fait, on va la rendre hermétique. Donc la terre sigillée fonctionne ainsi. Et très souvent, en fait, elle est ensuite derrière cuite au feu de bois ou en four ou en gazette, au gaz, mais pour apporter de l'enfumage avec des matières qui vont apporter un décor enfumé à la pièce. C'est vraiment très très beau.
Il y aura des bijoux également. Justement, cet aspect en céramique, du bijou en céramique, est-ce qu'il y a cette recherche de la finesse de pièces, cette matière
Oui, là, bah là, ça va dépendre un peu de chaque artisan et artisane, mais la plupart du temps, ils vont chercher, en fait, en tout cas, à faire un décor qui leur ressemble. Et donc, je dirais que la finesse va être présente souvent dans la porcelaine, mais pas que. En fait, on peut aussi partir sur des pièces beaucoup plus brutes qui vont avoir toute leur place sur les coups et les lobes d'oreilles, bien sûr.
Il y aura du raku, hein, cette technique qui utilise le feu et la fumée pour amener des teintes, hein, sur les céramiques.
Oui, complètement. Bon, ici, on a Thiago qui fait partie de l'association qui va utiliser cette technique qui est le raku. Donc, il va lui cuire des pièces à un peu plus de 1000 degrés. Et il va ouvrir son four qui va être à plus de 1000 degrés. Donc, on va ouvrir la porte du four. Il y a une vague de chaleur immense qui se répand dans l'atmosphère. On a des pièces qui sont rougeoyantes comme une braise, en fait. Hein. Il va la saisir avec des pinces et il va la mettre dans de la paille, dans de l'herbe, dans des copeaux de bois. Tout va s'enflammer d'un coup. La pièce, de par le choc thermique qu'elle subit, c'est-à-dire 1000 degrés, 0 degrés, enfin 0 degrés, température ambiante, va se micro-fissurer et la combustion des matières dans laquelle va être plongée la pièce va venir s'immiscer dans ces micro-fêlures et va donner ces nervures noires qui font la caractéristique du raku occidental.
Il y a aussi l'aspect mobilier. Alors, qu'est-ce qu'on peut définir d'un mobilier en céramique ?
Oui, ça c'est des choses qu'on voit de plus en plus apparaître. On a pas mal d'artisans et d'artisanes qui viennent avec des tabourets, avec des tables. Ça peut être soit un tabouret entièrement tourné, donc on est déjà sur des très grosses pièces. Hein. Quand on va commencer à tourner un tabouret, ça veut dire qu'on maîtrise quand même très bien le tour. Il y en a qui vont le modeler. Et puis, il y a ceux qui vont faire des tables où là, ils vont allier, je dirais, l'art de la faïence, enfin de la mosaïque. Aussi avec celui de la ferronnerie, hein, puisqu'on a des objets entièrement terminés. C'est vrai qu'il y a une partie des artisans et des artisanes qui vont mêler différentes techniques, qui maîtrisent et à la fois la terre et à la fois le fer, parfois même le bois, et qui vont composer avec tout ça. Là, on arrive sur des univers très complets et très personnels.
Il y a peut-être un aspect de mobilier en kit aussi, en céramique, où ça semble peut-être saugrenu, vu que quand même la force d'une pièce en céramique, c'est d'être une unité de manière à être robuste.
Oui, alors quand on dit en kit, ça va plutôt être de l'assemblage. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont... Qui de plusieurs pièces vont en faire une, vont les assembler effectivement là du coup avec effectivement des métaux, des bois. Bon, y a pas vraiment de limite à tout ça en fait, hein, ne serait-ce que l'imaginaire de la personne, mais chacun va composer avec son envie et sa créativité.
C'est surtout un investissement de temps et peut-être économique aussi. Et c'est peut-être pas évident à pouvoir opérer cette recherche.
Ce qui est certain, c'est que quand on veut vivre de la céramique, il faut composer avec tout ça. Il faut s'offrir des moments de recherche pour pouvoir faire évoluer sa production. Il faut également se poser tout de même des questions de rentabilité, un minimum. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la porcelaine, la matière première, la porcelaine coûte beaucoup plus cher qu'un grès par exemple, ou que de la faïence. Donc on va choisir ces matières, on va devoir ajuster ses prix également en fonction. Le potier, la potière, le céramiste, la céramiste, ne sont pas que des artisans, c'est aussi des chefs d'entreprise qui ont une partie de leur temps qui est consacrée à la recherche, à la comptabilité, à la production, qui vont prendre leur voiture pour aller parcourir les marchés de la région, qui doivent démarcher des boutiques pour placer leur production. C'est un métier qui est extrêmement prenant. Et je dirais que le métier même de potier et potière, en fait, est une partie de leur métier, la création. Et il faut aussi communiquer, il faut se faire connaître. Enfin, c'est extrêmement complet.
Il y a également cet aspect un peu magique, hein, justement, vous parliez de cette ouverture du four avec ces pièces rougeoyantes. Est-ce qu'il y a une impression aussi perceptible du potier sur cet aspect de résultat, de transformation, de chaleur ?
Il y a aujourd'hui, on va dire, trois grands types de cuissons. On a la cuisson au bois, donc ancestrale, traditionnelle, qui continue à se pratiquer aujourd'hui, qui évolue d'ailleurs aussi. Il y a la cuisson au four électrique, qui est une des techniques les plus récentes et des plus confortables. Et il y a la cuisson au gaz. Dans ces trois techniques, ce qu'on va retenir, c'est qu'il va y avoir, en fait, dans ces trois possibilités de cuisson, le four électrique qui, lui, ne va pas permettre de tout faire. On va être sur des cuissons qui sont uniquement en oxydation. Et on va avoir sur la cuisson au bois ou sur la cuisson au gaz la possibilité de faire des cuissons dites en réduction. J'entends par là en fait que la réduction permet en fait dans un four de priver le four d'oxygène. C'est-à-dire qu'on va sur le gaz ou sur le feu, on est capable de faire monter les flammes tellement fort qu'elles vont consommer tout l'oxygène. Et par un phénomène chimique, du coup, pour que la combustion puisse continuer, en fait, le feu doit trouver de l'oxygène. Et il lui manque des atomes d'oxygène, et donc il va aller les chercher dans les oxydes qui sont posés sur les pots. Et donc, du coup, il va aller changer la couleur de l'oxyde, puisqu'il va aller chercher des molécules dans l'oxyde qui est posé sur le pot. Donc, en fait, avec la cuisson au bois, la cuisson au gaz, on va avoir plus de possibilités de couleurs. La cuisson électrique, que moi, par exemple, je pratique, est très confortable, puisque moi, je peux cuire la nuit, dormir, alors que mes confrères et qui, eux, cuisent au bois ou au gaz, doivent surveiller leur cuisson. Et donc, ça leur demande une cuisson, c'est, enfin, en fonction des personnes, mais je dirais c'est entre 4 et 12 heures. Donc, eux, ils sont à côté de leur four pendant tout ce temps-là, pendant que moi, je peux dormir tranquille.
Il y a la cristallisation également. Alors, quelle est cette technique ?
Alors, la cristallisation, je vous invite à venir sur le marché pour en discuter avec les personnes qui la proposent. C'est une technique qui est très particulière, que moi, je connais un peu moins bien, mais qui va se jouer essentiellement au moment du refroidissement du four. C'est-à-dire qu'on va refroidir, c'est-à-dire que le four monte, si on fait de la porcelaine ou du grès, jusqu'à 1280 degrés, à peu près. Et ensuite, il y a la redescente. Donc, soit on laisse redescendre le four à sa vitesse, voilà, sans s'en soucier, et on obtient un résultat qui est souvent le même, si le four refroidit de la même façon. Soit on décide d'aller jouer sur des paliers de température, c'est-à-dire qu'on lui dit à la redescente, là, je veux que tu restes à X degrés pendant 2 heures, à X degrés pendant 2 heures. Et là, on va avoir un phénomène de migration des oxydes, si je ne dis pas de bêtises, et qui vont du coup se concentrer, qui vont se cristalliser à certains endroits, et qui vont donner ces pièces absolument fabuleuses à voir visuellement. C'est très impressionnant.
Sylvain Langlard, vous-même êtes potier en grès. Que sont vos propositions justement pour les visiteurs ?
Moi, je vais proposer de la poterie dite utilitaire, c'est-à-dire des tasses, des bols à boboune, des vases, des carafes, des pots à spatules, enfin tout ce qui a trait à l'art de la table. J'ai choisi moi une gamme qui est, je dirais, assez sobre, qui plaît au plus grand nombre, avec des contrastes de bleu, de blanc, et avec souvent des traits de terre apparentes. Moi, ma production à 10 commence, je dirais, à... Enfin, les gens commencent un petit peu à la connaître. On peut la trouver au 43, donc la boutique d'artisanat au 43 rue Camille Buffardel. Et on va la trouver également dans la boutique derrière la Fontaine à Châtillon ou au monastère de Sainte-Croix. Et puis après, évidemment, vous me trouverez également au marché des potiers de Die. D'ailleurs, je propose un petit peu de ce moment pour dire que, par exemple, les poteries d'Hélène Buzit ou de Sina, vous pouvez les trouver aux agités du local. Les poteries de Pierre, vous pouvez les trouver dans sa boutique. Hein. Lui, il a sa boutique d'artisan potier où on le voit tourner, façonner, et on peut lâcher ses pièces qui est, lui, rue Émile Laurent. Cathy de Souza, eh bien, ses pièces, vous allez pouvoir les apercevoir à l'entrepôt, chez François, donc dans la rue Buffardel. Thiago, vous allez pouvoir le voir dans la nouvelle galerie, alors, j'ai pas le nom en tête, mais qui est rue de l'Armellerie, qui va mélanger et photographie et peinture de Sophie Mathieu et également des pièces assez monumentales de Thiago qu'il faut, aller découvrir avec grand plaisir. Et je crois... Et Yudena, vous allez pouvoir la voir à Châtillon. Quand on vient de Die, en fait, juste avant de rentrer dans Châtillon, alors elle a sur la gauche son atelier et c'est de toute beauté.
La céramique ou la poterie, est-ce que cette activité est d'un intérêt pour le public plutôt stable ou alors il y a une montée d'intérêt ? Et est-ce que justement, par le biais de toutes ces commerces qui se sont ouverts, Adi, est-ce que peut-être on peut trouver des cas similaires dans d'autres villes ? Est-ce qu'il y a un développement de points de vente ? Est-ce que ça aussi c'est un intérêt pour le céramiste ?
Ce qui est certain, c'est qu'on a pu observer à Dille l'ouverture de différents commerces d'artisans, sous la forme de collectifs ou de magasins déjà existants, ou parfois de boutiques éphémères. Aujourd'hui, toutes ces boutiques sont encore ouvertes. Ça prouve bien en fait que l'un ne tue pas l'autre. Mais je pense plutôt, moi je pencherais pour le fait que l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a d'offres, plus on fera ses achats à Dille. Je crois qu'on peut observer qu'à Diolfi, c'est rempli de boutiques d'artisanat de céramique. C'est pas uniquement la poterie ou la céramique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une envie de créer de ses mains. Et donc, du coup, on a vraiment une offre qui se diversifie. Après, la céramique, je pense qu'aujourd'hui, le Internet, le web a largement contribué à la visibilité de ce métier. Il y a pas mal de personnes qui veulent s'y frotter, qui ont envie d'essayer, et c'est tant mieux. On a passé beaucoup de temps derrière les ordinateurs, et aujourd'hui, je pense que l'intelligence des mains reprend un peu de couleur, et voilà. Je vais le dire à tous les artisans et artisanes, quoi. C'est travailler avec ses mains, c'est beau, quoi.
Et puis, il y a aussi ce marché des potiers hein, qui a ce label de qualité de l'association d'argile. Alors, qu'est-ce que garantit justement cette association vis-à-vis des créateurs, mais aussi de la clientèle ?
Oui, c'est une très bonne question. Donc, l'association d'argile, pour être labellisée d'argile, il faut pouvoir, s'assurer que le marché se passe dans les bonnes conditions et pour les visiteurs et pour les céramistes. C'est-à-dire que typiquement, sur le marché des potiers de Dille, donc là, nous, on met 45 potiers et potières. Pourquoi ? D'une part, puisque la place de la République le permet, on pourrait imaginer étendre, mettre des stands derrière la cathédrale, mettre des stands ailleurs. Simplement, non. L'idée, c'est que en fait, ce marché, que les exposants et exposantes puissent en vivre. Et donc, du coup, c'est de ne pas faire venir trop de personnes au détriment des revenus que vont pouvoir en tirer les artisans et artisanes. Donc, pensez à ça. Deuxièmement, c'est qu'il y a une cohérence dans la proposition du marché. Donc, ce que j'ai exprimé tout à l'heure entre les différents corps de métier, les différentes matières, etc. Une belle présentation aussi, c'est-à-dire que, par exemple, sur le marché des potiers de Dille, vous ne trouverez pas de table avec des tréteaux. On va demander à ce que les exposants et exposantes aient fait un effort sur la présentation de leur stand. Donc, on a un univers qui se veut être beau, et puis ensuite dans la communication aussi, faire la promotion du métier et tout cela. Et là, cette année d'ailleurs, j'en profite un petit peu, c'est que cette année sur le marché, vous allez trouver un stand qui s'appelle le Bol de la Solidarité, qui est donc une action qui est menée par d'Argile sur les différents marchés d'Argile. Donc il y a un stand qui est dédié à ça. Chaque potier et potière vont au début du marché déposer une pièce sur ce stand qui sera vendue au profit de la solidarité chez d'Argile. D'Argile, c'est quoi ? Enfin, la solidarité d'Argile, c'est quoi ? C'est que, en fait, cette caisse de solidarité générée par les dons des potiers va permettre d'aider un ou plusieurs artisans ou artisanes qui subiraient un coup dur. Je prends un exemple, un four brûle, l'atelier de la personne brûle. Elle peut demander, si elle a des rentes d'argile, elle peut appeler d'argile et dire voilà mon coup dur. Et l'association, en fonction des fonds qu'elle a, décidera d'aider cette personne. Et quand même, chaque année, quelques personnes peuvent en bénéficier.
Autour de cet événement, beaucoup de soutien, de partenaires. Comment s'opère leur contribution au sein de ce marché ?
Au-delà du travail de l'association Terre-Terre, qui on va dire se traduit par du temps donné par les membres de l'association, derrière, il y a quand même un besoin de financement très important, puisqu'en fait, on va communiquer un peu partout. Communiquer, ça coûte cher. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être chez RDY, et RDY nous accueille gratuitement et on les en remercie. Mais quand vous voulez produire des affiches, il faut les imprimer. Donc nous, elles sont imprimées en grande partie chez Heraldi. Hein. On tient à ce que ça soit imprimé localement. Mais ensuite, donc du coup, voilà, il y a plusieurs centaines d'affiches qui sont posées. Il faut aller ensuite accrocher toutes ces affiches. On va les afficher jusqu'à Valence. Hein. Valence, Diolfi, on va aller en mettre quasiment jusqu'à Gap. Donc en fait, on inonde tout de même la vallée de communication. Ensuite, on va mettre de la publicité dans le Dauphiné Libéré, dans le journal du Diwa, enfin, on va dans les journaux de céramique. Tout ça, ça a un vrai coût. On parle d'un budget qui est supérieur à 5000 euros de communication. Pour ce faire, il n'y a pas de secret, il faut trouver de l'argent. L'argent, on le trouve de différentes façons. Donc, chaque exposant sur le marché va devoir payer sa place sur le marché. On est sur un tarif qui est tout à fait similaire à ce qui se pratique. C'est-à-dire qu'on est sur à peu près 80 euros, 85 euros, je crois, cette année, pour un exposant sur le marché, sachant qu'il est invité à manger le midi. C'est les petits fourneaux qui va concocter le repas du midi. Puis le soir, il y aura un dîner qui leur sera offert aussi aux exposants. On le fera en partenariat avec le cinéma du Pestel et la matisserie d'Adèle. Et puis... le boucher Nakin qui va nous faire le buffet. Et donc, pour financer tout ça, donc je disais d'une part les adhésions, hein, 85 euros fois 45 exposants. Et puis ensuite, derrière, une subvention de la mairie qui a toujours été sans faille, qui nous soutient depuis plusieurs années, qu'on remercie, qui est pas anodine. Le département également qui va nous aider. Et puis, on a aussi la chance d'avoir quand même un peu plus de... Je crois que cette année, on a 23 commerçants. On fait du porte-à-porte, on va les voir. Et on a 23 commerçants qui ont donné plus de 55 euros par commerce, avec certains qui ont donné beaucoup plus aussi également. Et ça, c'est quand même pour nous à la fois un soutien moral, c'est-à-dire l'assurance du fait que cet événement leur plaît, qu'eux-mêmes se disent « Tiens, cet événement va drainer plus de 5000 personnes, ça nous intéresse ». C'est aussi la preuve qu'ils veulent que des choses se montrent sur cette place et qu'ils sont prêts à y participer financièrement. Donc voilà, on voudrait les remercier très chaleureusement parce que sans ces 25 commerçants qui ne roulent pas sur l'or, quoi, sans leur aide, ce marché ne pourrait pas exister. Donc c'est vraiment... je ne peux pas les citer, ils sont tous très nombreux, mais vous les voyez sur les affiches, vous les voyez sur les flyers, on va communiquer sur la page Facebook du Marché des Potiers, leur logo apparaîtra. Sur Instagram, on va aussi les mettre à l'honneur, quoi. Et on les... Voilà, merci à eux.
Voilà, donc rendez-vous pris le 7 août 2025, place de la République, à partir de 9h jusqu'à 19h. Lors de cette journée, j'imagine que, bon, bien que située place de la République avec tous ces lieux de restauration ou de désaltération, est-ce qu'il y a malgré tout un petit stand aussi accessible au public pour des petites propositions
Je crois qu'il y aura des petites glaces qui vont venir. Sur la place et voilà, on vous invite à venir déguster une bonne glace sous la chaleur, c'est toujours bien agréable. Et d'ailleurs, vous pouvez même acheter un petit bol et mettre votre boule de glace dedans, c'est conseillé.
Ça rafraîchit bien. Est-ce que vous êtes toujours aussi à cette recherche de nouveautés, d'innovation? Est-ce que parfois, dans les propositions faites, il y a des personnes qui proposent des choses inconcevables ou qui étonnent?
Oui, chaque année, il y a des surprises. Ça peut être des choix tout simplement de couleurs, un stand entièrement noir ou entièrement blanc déjà. C'est toujours assez surprenant. Les stands de cristallisation, souvent, je pense que ça, c'est assez sidérant comme résultat. Et puis, il y a des gens qui vont aussi proposer du modelage ou du façonnage extrêmement précis et qui sont des pièces où, en tout cas, en tant que nous, que pratiquants l'art de la céramique, quand on regarde ces pièces, on voit le boulot accompli et on est souvent assez bluffé, ouais.
Sylvain Langlard, je vous remercie beaucoup pour nous avoir présenté ce Marché des Potiers, 22e édition, avec cette écriture inclusive quand même, potier.es.
Absolument, là aujourd'hui c'est une voix masculine qui vous parle, mais il y a plus de potières dans l'association que de potiers. Donc voilà, je les remercie d'avoir accepté que je vienne moi ici en ambassadeur, mais évidemment l'inclusivité semble aujourd'hui de mise et obligatoire. Et d'ailleurs, on pourrait presque dire marché de potières, puisqu'il y a plus de potières représentées que de potiers. Malgré tout, on dit encore potier, potière. Voilà. Mais on y tient et voilà, on espère que tout le monde le comprendra.
Le département ne fait pas la fine bouche sur les demandes de dossiers avec écriture inclusive, comme on a pu l'observer il y a quelques semaines en région PACA, je crois.
Alors ici, par contre, on n'a jamais eu de retour à ce sujet. Et je crois que dans le coin, en tout cas, c'est entendu. Voilà. On vous donne le rendez-vous, vous avez noté, hein, le jeudi 7 août. Adi, Place de la République.
Et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site marchépotierdi.com. Je mettrai le lien sur la page de l'émission. Sylvain Langlard, merci beaucoup d'être venu sur RDWA pour nous présenter donc, ce marché des potiers, 22e édition.
Merci de nous avoir invités.
Bonne fin de journée. Au revoir.